RFI, Radio France Internationale, il est 4h à Paris.
Mathis Limano.
3h en temps universel, votre journal a commencé par la riposte israélienne la nuit dernière. 4 morts en Iran et des dégâts mineurs sur les sites militaires visés selon Téhéran. Le point en début de journal avec notre correspondant. Au sommaire également, un scandale d'agression sexuelle en Espagne secoue la gauche au pouvoir. Et puis les réformes du président argentin Javier Milei saluées par le FMI. Depuis le 1er octobre et ses 200 missiles envoyés vers Israël, l'Iran et le monde s'attendaient à une riposte. La nuit dernière, des frappes précises et ciblées selon Israël ont visé des sites militaires de Téhéran. Bilan, 4 morts et des dégâts mineurs, rapportent les autorités iraniennes. Le point à Téhéran avec notre correspondant Siavosh Ghazi.
Selon l'état-major des forces armées iraniennes, des avions de combat israéliens sont entrés dans l'espace aérien irakien, dans la partie contrôlée par les États-Unis. Ils n'ont pas pu s'approcher du ciel iranien et ont tiré des missiles depuis une distance de 100 km de la frontière pour viser des systèmes de radar le long de la frontière et dans la région de Téhéran. Le communiqué ajoute que l'entrée en action du système anti-aérien a empêché les avions israéliens d'entrer dans le ciel iranien et de nombreux missiles ont été interceptés. Il ajoute également que les systèmes de radar ont subi des dommages mineurs. C'est la première fois que l'Iran donne des détails sur l'opération israélienne. Dans le communiqué, l'état-major des forces armées affirme également que l'Iran se réserve le droit de répondre le moment venu. Déjà, le ministre iranien des Affaires étrangères avait affirmé qu'il n'y avait pas de limite pour défendre le territoire iranien. Toute la question est de savoir si l'Iran va lancer de nouvelles attaques contre Israël ou en rester là, puisque les autorités iraniennes affirment que l'opération israélienne n'a pas été un succès et que les dégâts sont mineurs. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et après cette riposte israélienne sur l'Iran, le temps des réactions, et elles sont nombreuses, il faut s'abstenir de toute escalade, demandent Paris, Londres et Berlin. De son côté, Washington invoque la légitime défense de l'État d'Israël tout en appelant l'Iran à ne pas répliquer. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie condamnent unanimement les attaques d'Israël, tandis que la Turquie parle de terreur créée par l'État hébreu dans la région. Pour sa part, et malgré les avertissements américains, l'Iran juge avoir le droit de se défendre. Le reste de la région toujours dans la guerre, nouveau bilan des victimes à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Ce sont 42 924 personnes qui ont perdu la vie dans l'enclave. Au Liban, l'agence de presse ANI rapporte de nouvelles frappes tôt ce dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, peu de temps après un appel à évacuer de l'armée israélienne. Week-end de vote un peu partout autour du globe. En Géorgie, les bureaux de vote sont fermés depuis samedi soir. Le dépouillement est toujours en cours. Les résultats partiels des législatives donnent la formation pro-russe au pouvoir en tête avec 53%. Législative également au Japon, 100 millions d'électeurs appelés aux urnes dans un scrutin à enjeu. Le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba pas garanti d'avoir une majorité absolue pour gouverner. En cause, les récents scandales qui ont écorné l'image de son parti. Au Chili, élections municipales et régionales, le pays n'avait pas voté depuis la crise sociale de 2019. L'extrême droite pourrait faire une percée. À noter également les élections législatives en Bulgarie et en Lituanie. Au Brésil, on vote pour le second tour des municipales. Au Soudan, maintenant, les RSF, les forces de soutien rapide du général Hemeti, accusés de se livrer à des massacres de civils dans plusieurs villages de l'état de Jezira. C'est dans le centre du pays. Les bilans humains sont difficiles à établir. Des sources locales évoquent des centaines de morts. Explication Florence Maurice.
La semaine a été sanglante dans cet état situé au sud de Khartoum. Parmi les villages attaqués, ceux de Al-Saïra et Azrak, selon le comité de résistance d'un village voisin, les paramilitaires des forces de soutien rapide y ont imposé un siège total aux habitants et multiplient les exactions contre les civils. L'accès au terrain est impossible et les communications sont coupées. Il est donc difficile d'établir des bilans, mais à en croire les listes de victimes diffusées par des habitants, rien qu'à Al-Saïra, on comptait déjà plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Les attaques contre des civils dans cette zone ont débuté dimanche dernier et se multiplient depuis. Il s'agirait d'une opération de représailles de la part des paramilitaires des forces de soutien rapide après que leur commandant régional a décidé de faire défection pour rejoindre l'armée régulière. Selon le syndicat des médecins soudanais, le degré de violence est tel que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le syndicat appelle les Nations Unies à faire faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs.
Florence Maurice, et depuis le début de la guerre au Soudan en 2023, on estime entre 20 000 et 150 000 le nombre de victimes.
RFI.
RFI 4h05 à Madrid, l'Espagne secouée par l'affaire Íñigo Errejón. Le leader du parti de gauche radical Sumar, porte-parole du gouvernement, a reconnu à mi-mot avoir renoncé à ses fonctions après une accusation d'agression sexuelle par une actrice. Le scandale Errejón nourrit les guerres intestines au sein de la gauche, François Musso, et affaiblit le gouvernement Sanchez.
Le parti Sumar, dirigé par la ministre du Travail Yolanda Díaz, a présenté ses excuses. L'agression sexuelle dénoncée par l'actrice Elisa Mulia contre Íñigo Errejón s'est produite il y a un an et la formation de gauche radicale reconnaît que ces mécanismes de détection ont failli. Ses dirigeants auraient dû voir que leur porte-parole avait une conduite inappropriée avec les femmes. Ce désaveu est d'autant plus grave qu'il touche une formation qui précisément défend les droits des femmes et les affres du patriarcat. Cela donne des arguments à la droite dans sa bataille culturelle contre la gauche et ses contradictions, souligne le politologue Pablo Simón. Sumar était déjà sur une pente descendante, cette affaire avive ses divisions internes et affaiblit par ricochet le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Celui-ci dépend en effet de son alliance avec Sumar pour subsister et voter le prochain budget. Le leader Pedro Sanchez n'avait vraiment pas besoin de cela. Déjà fragilisé par l'inculpation de son ancien ministre des infrastructures pour corruption et par les poursuites judiciaires contre son épouse Begoña Gomez, accusée d'avoir obtenu un poste universitaire de façon frauduleuse. François Musso, Madrid, RFI.
En bref, maintenant, la situation économique morose en Russie. Le pays fait face à une inflation galopante, plus de 8% en un an. En cause, la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. Conséquence, la Banque centrale russe a annoncé relever à 21% son taux directeur, son niveau le plus élevé depuis 20 ans. Et en Argentine, Javier Milei continue sa politique de la tronçonneuse pour renflouer les caisses du pays, tout en réduisant le secteur public à sa plus simple expression. Il veut désormais vendre près de 1200 biens immobiliers détenus par l'État. Une annonce qui intervient alors que le Fonds monétaire international, le FMI, a salué ce vendredi la politique économique du président élu il y a un peu moins d'un an, Justine Fontaine.
Pour la première fois depuis 16 ans, l'Argentine a enregistré un excédent budgétaire au premier semestre 2024, salue le FMI, qui se réjouit aussi d'une décrue plus rapide que prévue de l'inflation. Elle devrait certes rester très élevée cette année, juste sous la barre des 140% fin 2024, estime l'institution, mais ensuite elle retomberait à 45% d'ici à la fin de l'année prochaine, prévoit le FMI. Des signes d'une stabilisation de l'économie qui pourrait jouer en faveur de Buenos Aires, qui veut obtenir un nouveau prêt, un nouvel accord auprès du FMI, car l'Argentine doit rembourser 20 milliards de dollars d'emprunts qui arrivent à échéance l'an prochain. Le Fonds monétaire voudrait, en retour, une libéralisation du taux de change entre le dollar et le peso argentin, ce qui pourrait mener à une dévaluation de la monnaie nationale. Le pays va en tout cas finir l'année en récession et le coût social des réformes de Javier Milei est par ailleurs gigantesque. La pauvreté est au plus haut depuis 20 ans et touche plus de la moitié de la population.
Un retour presque à la normale en Guadeloupe. Le courant est rétabli pour deux tiers des clients, annonce de la compagnie d'électricité EDF 24 heures après une coupure généralisée sur l'île française des Antilles. Tous les habitants devraient à nouveau avoir du courant durant le week-end. Le couvre-feu, lui, est reconduit dans certains secteurs. À noter également de nombreux pillages la nuit dernière, notamment à Pointe-à-Pitre, alors que l'île était plongée dans le noir. Au total, 11 enseignes ont été vandalisées, notamment à l'aide d'un tractopelle. Les forces de l'ordre ont essuyé des tirs. Du sport maintenant pour conclure votre journal et puis du foot pour commencer. Classico à sens unique en Espagne, en Liga. Le FC Barcelone a déroulé et a corrigé le Real 4-0. Une victoire des Blaugranas qui leur permet de rester en tête de la Liga. En France, dans le derby du Nord, c'est Lille qui gagne à la toute fin même, grâce à un pénalty converti par Jonathan David à la 98e minute, suivi d'un but de Mohamed Bayo. Lille 2, Lens 0. Les affiches de ce dimanche, le classique en France et non le classico, l'OM reçoit le PSG. En Italie, choc entre le 2e et le 3e de Serie A, la Juventus se déplace à San Siro pour affronter l'Inter. Et puis cette très belle affiche également en Angleterre, Arsenal-Liverpool. En cas de victoire, les Reds peuvent prendre la tête de la Première Ligue. RFI 4h10 à Paris, 3h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.